Chapitre 10 Sous la terreur. Un jour du printemps de 1919, Malcolm Hay, sa valise usagée à la main, sortait du Komsky Volkshall. Le cigare aux lèvres, il redressait sa haute taille et une lueur de gaieté brillait dans ses yeux graves. Les épaules larges, le corps souple, le teint bruni, tout trahissait en lui le soldat américain ou anglais. C'était du moins l'impression du seul être humain actuellement dans cette rue déserte, un solide gaillard à barbe courte, sanglé dans la pelisse verte des conducteurs de Drotsky de Moscou. Malcolm, regardant autour de lui, s'aperçut qu'il avait attiré l'attention de l'homme. « Petit frère, dit-il avec le meilleur accent russe, voudriez-vous avoir la complaisance de me conduire à l'hôtel du Bazar Slave ?» Le cocher fit attendre sa réponse. Elle vint enfin dans le plus pur idiome britannique. « Anglais, n'est-ce pas ? » dit-il. « J'en suis, c'était sûr. » Malcolm resta un peu interdit. « Je crois même que je vous ai déjà vu. Attendez. » Et donnant une tape sur sa barbe, il acheva. « J'y suis. Hey !» Je vous ai rencontré il y a quelques années dans le monde, à Kiev. Vous êtes bien administrateur dans une affaire de pétrole ou quelque chose comme ça. Ah, parfaitement, mais j'avoue que je ne me souviens pas. Mais pourtant, nous avons dîné ensemble, reprit le russe en riant. J'étais assis auprès de la grande duchesse Irène. Et un peu plus tard, quand la guerre a éclaté, je vous ai invité au quartier général. Oh, grand Dieu, mais vous êtes le général Malenkov. Jadis commandant, la 4e division katonzienne, acheva ce dernier sèchement. Et aujourd'hui, commandant un petit cheval. Si vous voulez user de mon excellent véhicule, je vous conduirai à un restaurant. Vous pourrez boire et manger, presque très bien pour 50 roubles. Malcolm monta dans la voiture, croyant rêver. Malenkov. Il revoyait le bel officier caracolant dans les rues de Kiev à la tête de son brillant étalon-major. Malcolm se souvenait d'être venu de ses puits de pétrole pour dîner avec lui et aussi pour avoir des nouvelles d'une personne dont il n'entendait plus parler depuis longtemps. Le drojki roulait furieusement vers l'extrémité est de la ville et le jeune homme remarqua que son conducteur évitait les grandes artères qui mènent au Kremlin, centre de Moscou. Ils s'arrêtèrent dans une ruelle devant un restaurant de modeste apparence. Malenkov sauta de son siège et, abandonnant son équipage, il fit entrer Malcolm, traversa avec lui la salle basse, bondée de clients, et parvint à une petite table libre. « Asseyez-vous, Monsieur Hay. Oh, je ne vous promets pas un festin de sybarite, mais un honnête déjeuner. Bonjour, Nicolas Vassilinski. » Ceci s'adressait à un homme grisonnant, en blouse de travail, assis non loin d'eux. Il se leva vivement et s'inclina. « Oh, si vous voulez faire remettre vos vêtements en état pendant votre séjour à Moscou, continua gaiement le général, je vous recommande mon ami. Le colonel Nicolas Vassilievski n'est pas seulement un excellent directeur du service de renseignement, mais il n'a pas son pareil pour repasser un pantalon. Maintenant, laissez-moi vous interroger. Vous êtes en route pour Petrograd ? Oui, je retourne dans ma patrie. Pendant la guerre, je contrôlais tous les approvisionnements des alliés en Petite Russie. « Oh, la révolution a arrêté tout cela !» Heureux homme qui avait une patrie, dit le général tristement. Il haussa les épaules. « Bien, vous voulez rentrer chez vous, mais d'abord vous en aurez pour des mois avant de quitter la Russie, si jamais vous la quittez. J'ai essayé, moi aussi, de m'en aller il y a quelques semaines, parce que je ne peux pas respirer dans cette atmosphère révolutionnaire. Et dire qu'autrefois, je croyais avoir des idées libérales. Mais pourquoi êtes-vous cocher de fiacre ? Oh, mon cher, parce que je suis un être humain, que je dois manger et avoir une chambre pour dormir, parce que j'ai besoin de cigarettes, de chemises propres, au moins 3 fois par semaine. En un mot, je dois vivre. Ah, vous n'avez donc pas un peu d'argent ? Demanda Malcolm avec embarras. Excusez-moi d'être indiscret, mais je suis si peu au courant. Naturellement, dit Malenkov avec un bon rire, et se tournant vers la servante. Une bouteille de kvass, ma pêche de Turkestan, et un verre pour le camarade. Lorsque la servante fut sortie, il regarda Malcolm bien en face. Mr. Ray, je n'ai pas honte de vous laisser payer votre dîner. En ce temps de démocratie, je ne puis vous l'offrir sans avoir l'air de vous faire l'aumône. Non, je n'ai pas d'argent. Mon compte à la banque de l'État a été confisqué pour la cause sacrée du peuple. Ma propriété à 100 de verstes de Moscou également confisquée pour la cause sacrée de la Révolution. Et ma maison de Petrograd est occupée par le service sacré du Soviet. Mon fiacre m'a été donné par un de mes anciens grooms, un certain Isaac Moselvitch, aujourd'hui juge à la haute cour où il siège avec assez de succès, bien qu'il ne sache même pas signer son nom. Masteré, continua Malenkov, de plus en plus sérieux, vous avez eu tort de venir ici. Retournez à Kiev et traversez le Caucase. Au-delà de Tiflis, vous pouvez gagner les postes américains. Ne cherchez pas à quitter la Russie, c'est impossible. Les bolcheviks sont devenus fous de sang, fous de meurtre. Tout étranger est suspect. On arrête les Américains, les Anglais. Je peux vous obtenir un passeport pour Odessa et de là, vous atteindrez Batoum ou Bakou. Mais cela va donc bien mal. Mais je vous dis que Moscou est une ville d'aliénés. Vous entendez ce bruit ? Quelque chose comme un claquement de fouet dominait nettement maintenant le bourdonnement des conversations. C'est la fusillade, dit Malenkov très calme. La contre-révolution progresse. Les anarchistes avancés sont en révolte contre les bolcheviks. Chaque matin, c'est ainsi. Entre cochers, nous nous réunissons après le petit déjeuner pour décider quelles seront les rues à éviter. Nous sommes remarquablement bien informés par le prince d'Algouriski, ancien capitaine de la garde Preobrajensky. Il vend des journaux aux abords du quartier général du Soviet et les camarades lui donnent des pourboires. Un de ces jours, ils le tueront, mais... Pour le moment, notre ami est en faveur et se fait jusqu'à 100 roubles par jour. Malcolm hasarda la question qu'il s'était posée si souvent pendant les années précédentes. Et pouvez-vous me dire ce qu'est devenu le grand-duc Yaroslav ? Le général secoua la tête. Bon, quand on m'en a parlé, il y a assez longtemps, son Altesse était à Petrograd. Et sa fille ? Son compagnon lui jeta un regard étrange. « Dans quelles circonstances avez-vous vu pour la dernière fois ?» Monsieur Hay hésita. Il pouvait difficilement raconter la scène tragique qui s'était déroulée dans sa chambre à coucher. Depuis le moment où Irène s'était enfuie par la porte entrouverte, il ne l'avait plus jamais revue. Le lendemain matin, lorsqu'il s'était réveillé, affaibli, presque malade, on lui avait annoncé que le grand-duc et sa fille avaient déjà pris l'express pour la capitale. De l'odieux Boulba, aveugle, pas un mot. Et quand il s'était enquis du juif, les gens avaient haussé les épaules en disant qu'il avait disparu. Sa maison était fermée. Il pouvait être ou dans une cachette ou en prison. Plus tard, Malcolm avait appris que le vieux bonhomme s'était installé à Moscou sans être inquiété par les autorités. Boulba, lui, avait gardé son secret. « Vous avez l'air embarrassé, » reprit Malenkov en souriant. « Je vais vous dire pourquoi je vous ai posé cette question. Vous savez que Son Altesse la Grande Duchesse a été bannie de la cour pour désobéissance à la volonté impériale. Non, je ne sais absolument rien. Ben, elle n'a pas voulu se marier, voilà tout. J'ai oublié le nom de celui qu'on voulait lui faire épouser. Alors Son Altesse n'est pas mariée. Sans répondre, le général appela la servante du geste. « Qu'est-ce que nous vous devons, ma chère petite ?» Elle présenta l'addition qu'ils soldèrent. « Et où allons-nous maintenant ? Comment pourrais-je savoir ? Que doit faire un étranger qui veut séjourner dans la ville ?»« D'abord, trouver un logis, » dit Malenkov avec un sourire significatif. « Vous m'avez demandé de vous conduire au bazar slave, homme simple et plein d'illusions. » C'est le quartier général du Soviet. Vous en rapprocherez du moins en allant vous faire inscrire dans les bureaux voisins. Il faudra vous rendre ensuite chez le commissaire pour remplir la même formalité. Et, si vous êtes vu d'un bon œil, chose assez improbable, vous recevrez un ticket afin de pouvoir subvenir aux nécessités de votre existence. Les tickets se procurent plus facilement que la nourriture. La première démarche dans l'annexe du bazar slave ne donna aux deux compagnons pas plus de résultats que d'ennui. Le quartier général du Soviet occupait seulement des questions administratives et de l'organisation de ses comités. Une foule de soldats portant le brassard rouge encombrait les couloirs et le seuil des portes. Malenkov interpella un factionnaire mal peigné sans col et en bras de chemise, qui était assis devant une table couverte de paperasse. Pour toute réponse, celui-ci se renversa en arrière sur sa chaise et se mit à injurier les importuns avec volubilité. « Nous aurions pu nous dispenser de venir ici, » dit le général, « mais il est indispensable que vous voyiez le commissaire pour ne pas risquer d'être une de ces nuits arraché de votre lit et fusillé avant d'avoir pu vous reconnaître. À propos, nos prisons se sont enrichies d'un Américain assez intéressant. D'après ce qu'on m'a dit de lui, c'est ce que vous appelez, je crois, un gangster. » Malcolm tressaillit. Un gangster ici? Oui, il a probablement cambriolé le trésorier général du Soviet. J'aurais aimé faire la connaissance de ce bandit, mais il doit être mort à l'heure qu'il est. La justice est sommaire à Moscou. Alors, remontez dans ma petite voiture et je vais vous conduire chez le commissaire. Le personnage en question occupait une maison aux proportions si vastes que me serait le cru anciennement destiné au bureau de la ville. « C'était l'hôtel du grand-duc Yaroslav, » dit Malenkov. Ce nom donna un petit choc à Malcolm, qui n'ouvrit plus la bouche. À l'entrée, la sentinelle, un homme sale et mal rasé, était en train de fumer une cigarette. Un groupe de soldats, évidemment dépris, mébris de l'ancienne garde, remplissait le vestibule. Le commissaire était sorti. Quand rentrerait-il ? Impossible de le savoir. Il avait emmené la petite mère pour être, peut-être pour aller à Pietrograd, peut-être seulement pour faire une promenade dans la campagne. La chose certaine, c'est que personne ne pouvait remplacer le fonctionnaire absent. Malcolm en concluait que ce gentleman était singulièrement jaloux de son autorité. Ce fut seulement à 9 heures du soir, après 5 tentatives infructueuses, que la question de Mr. Rye et la sentinelle reçut une réponse affirmative. « Ben, cette fois, mon ami, vous allez le voir, » dit Malenkov. « Et l'avenir dépend de la protection plus ou moins efficace de votre saint patron. » Malcolm l'arrêta sur le seuil. « Général, chut, pas ce mot, surtout. Appelez-moi citoyen ou camarade. » « De préférence, camarade. Mais je crains que vous soyez en danger à cause de moi. J'ai agi en étourdi et en égoïste. Cela fera-t-il une différence que cet homme vous voie ou non ? Ouais, vous ne vous trompez pas. Il est toujours dangereux d'attirer l'attention de ce comité chargé de réprimer la contre-révolution. Mais du moment que j'ai entrepris de vous piloter, je peux aussi bien entrer avec vous que rester dehors, sur mon siège. On vous demandera certainement qui vous a amené ici. Cela pourrait paraître louche si je ne me montre pas. De plus, je témoignerai en votre faveur en disant que vous êtes un bon camarade, ami du Soviet. Il parlait sur un ton mi-sérieux, mi-plaisant, mais avec un fatalisme absolu. La porte du bureau du commissaire était ouverte, mais presque entièrement barrée par une table devant laquelle se tenait assis un individu sans armes. De chaque côté, le passage n'avait guère plus de 8 pouces. L'homme demanda aux visiteurs ce qu'ils désiraient, écrivit leur nom qu'il tendit à un soldat, et leur fit signe de se glisser dans l'étroit espace pour pénétrer dans la pièce. Chapitre 11. Le commissaire au nez tordu. Une douzaine de soldats aux uniformes tachés et portant l'inévitable brassard rouge étaient groupés çà et là. Leur officier, une serviette bourrée sous le bras, fumait nonchalamment adossé aux boiseries. Derrière la table, couverte de documents, deux personnes étaient assises, un homme et une femme. Elle était à demi couchée sur son bras, la tête tournée vers son compagnon. Les cendres de sa cigarette formaient devant elle un petit arbre malpropre. L'homme était grand, large, avec d'énormes mains rugueuses, des cheveux roux et un nez tordu. En voyant son ignoble face, Malcolm s'arrêta stupéfait. Il venait de reconnaître Bulba. Et devant ses yeux sans regard, il frissonna. Le commissaire leva brusquement la tête. Qui est là? Demanda-t-il. Dis-moi, Sophia, qui est-ce? Oh, un bourgeois, dit la jeune femme avec indifférence, un étranger, je crois. Qui êtes-vous, bourgeois? Un Anglais, répondit Malcolm. Au son de cette voix, Bulba dressa l'oreille. Un Anglais, répéta-t-il lentement. Ah, mais celui des puits de pétrole, votre nom? Hey, Malcolm Hay. Le visage de Bulga ne refléta aucune émotion. Et l'autre? Malinkov, dit le général d'un ton bourru. Ah oui, commandant une armée, je me souviens. Oh, tu conduis un fiacre maintenant, camarade. Et se tournant vers Sophia, y a-t-il quelque plainte contre lui? Dit-il. Non, pas que je sache, c'est un aristocrate et un ami de Romanov. Fit Bulba désappointé. Alors, que désirez-vous? Ben, l'étranger, dit Malinkov, peut-être obtenir la permission de rester à Moscou jusqu'à ce qu'il puisse prendre un train pour le Nord. Le commissaire resta silencieux. Au bout d'un moment, il demanda. Et où couchera-t-il ce soir? Dans mon écurie, près de Vassili Prospect. L'ex-domestique de Yaroslav se pencha vers sa voisine et lui parla à voix basse. Fais comme tu voudras, mon petit pigeon, répondit-elle tout haut. Il médita encore quelques minutes, la bouche entrouverte, puis brusquement. Asseyez-vous, dit-il. N'ayant pas de siège, Malinkov et Mr. High reculèrent parmi les soldats. Il y eut une nouvelle consultation entre Bulba et sa compagne, puis cette dernière appela l'officier qui vint déposer sa serviette sur la table et en tira une liasse de papier. Sophia, mes yeux, lis-moi leur nom, dit l'aveugle en tâtonnant des deux mains pour rapprocher de lui un timbre en caoutchouc et un coussinet d'encre. La jeune femme prit la première feuille et commença. Malcolm osa demander tout bas à son compagnon: Mais de qui parle-t-il? De condamné à mort. Malcolm frissonna. Sans arrêt, les noms tombaient des lèvres de Sophia, et le timbre qui devait apporter la mort aux uns, la douleur à tant d'autres, frappait, frappait toujours. Plus d'une heure s'écoula ainsi, sans que Bulba eût donné d'autre signe d'attention aux deux visiteurs. « Mais je n'y comprends rien, » chuchota Malenkov. « Il y a quelque chose d'anormal. Pourtant, si nous étions soupçonnés l'un ou l'autre, nous serions depuis 3 quarts d'heure en prison. » Tout à coup, le commissaire se leva en disant « Quelle heure est-il ?» Une douzaine de voix lui répondirent « 10 heures et demie déjà. La balayeuse devrait être ici. » Et se renversant en arrière, il se mit à rire aux armes. Les soldats se joignirent à sa gaieté. À la fin, prenant un mouchoir, il essuya ses yeux éteints et se pencha vers Sofia Kensky. « Redis-moi le nom de l'anglais, je ne m'en souviens plus. Ah oui, hey, vous qui êtes un bon bourgeois, vous avez eu des serviteurs sous vos ordres. Il faut bien qu'une maison soit propre, n'est-ce pas ?»« Oh, certainement, Bulba, » dit Malcolm sans s'émouvoir. « Oh, il m'a appelé Bulba. Quelle bonne mémoire! Eh bien, tant mieux. Oui, camarade, j'ai servi ce lord insolent. Moi, Bulba, j'ai rampé devant cet homme. Bulba, viens ici, fais cela, Bulba, sur mes bottes. Approche, mon petit Bulba, et baisse la tête pour que je mette mon pied dessus. Aujourd'hui, il ose m'appeler par mon nom. » Une voix dans le couloir interrompit cet accès de fureur. « Ah, voilà ma balayeuse. Hey, elle vient chaque jour faire ma chambre et mon lit. Mais comme une servante ordinaire ne me suffirait pas, il faut qu'elle se présente en grande toilette et arrive de Nijoukaya dans la plus belle voiture. Ouvrez vos yeux !» Malcolm jeta un regard vers la porte et resta pétrifié. La personne qui venait d'entrer était plus élégamment vêtue qu'aucune autre femme de Moscou. Son vaste manteau de fourrure l'enveloppait tout entière, et une toque semblable couvrait ses cheveux. Il ne pouvait voir ses souliers en mauvais état, ni sa robe misérable. En réalité, il ne vit rien, si ce n'est le délicieux visage, celui de ses rêves. Visage toujours resplendissant de jeunesse, plus beau encore qu'autrefois peut-être. Elle s'avança fièrement, son petit menton relevé, fixant Bulba avec mépris. Après avoir ôté son manteau et l'avoir accroché à une patère, elle ouvrit un placard et en retira un grand balai. « Au travail, Irène Yaroslav !» commanda son maître. Malcolm fit un mouvement, et son ami se tourna vers lui tout d'une pièce. « Vous la reconnaissez? Ah, bien entendu, au fait, c'est peut-être pour cela que Bulba nous a gardés jusqu'à présent. » « Mais il a été domestique chez les Yaroslav !» murmura Malcolm, les dents serrées. « Oh, tout s'explique, il veut humilier la grande-duchesse devant nous. » « Surtout, nettoyez bien !» ricana l'aveugle. « Sofia Kensky, cela ne devait-il pas du baume sur le cœur? Oh, si seulement je pouvais voir! Est-elle à genoux, au moins ?» La juive ne paraissait pas se réjouir particulièrement du spectacle. Elle regardait au contraire Irène, les sourcils froncés. Elle se pencha tout à coup et l'interpella durement. « Irène Yaroslav, où est Israël Kensky ?»« Je ne sais pas, » répondit la jeune fille sans lever la tête. « Vous mentez. Dites-moi où il se cache, ce qu'il a fait du livre magique. Elle le sait, Bulba. » « La paix, » dit ce dernier en mettant sa grosse main sur l'épaule de Sofia. « Elle va me le dire, tu vas voir, et sans chigner. » « Où est votre père, Irène ?»«
Vous le savez mieux que moi. »
Cette réponse sembla amuser énormément le commissaire. Il ricana.
« Mon père est mort, il y a 3 semaines, à la forteresse Pierre-et-Paul, » dit la grande-duchesse avec calme.
Bulba eut un rugissement. « Qui te l'a dit? Qui? Avoue-le! J'arracherai le cœur à ce lâche !»
Le haut-commissaire Boyaski.
En entendant ce nom, Bulba dut refouler sa rage. Personne n'osait recritiquer un de ces fonctionnaires qui détenaient le droit de vie ou de mort, même vis-à-vis de leurs collègues. Alors, balançant sa grosse tête, il se leva et se dirigea à tâtons vers la grande-duchesse qui l'attendait sans bouger. Malcolm n'avait plus d'armes, ayant été averti par Malenkov qu'il serait fouillé. Mais le rustre agissait simplement poussé par sa méfiance d'aveugle. Il se contenta de passer la main sur le visage de la jeune fille. «
Mais la peau chaud, dit-il désappointé. « Vous ne vous donnez pas assez de peine, Irel Yaroslav. Demain, vous apporterez un seau d'eau et vous la verserez sur le plancher. »
Sans répondre, elle continua à travailler, les yeux obstinément fixés au sol, tandis que Bulba regagnait sa chaise. Irène balaya ainsi tout autour de la chambre. Arrivée à l'endroit où était Malcolm, pour la première fois, elle releva la tête et rencontra le regard du jeune homme. Avec une petite grimace, elle porta vivement la main à ses lèvres. Oh, il reconnaissait le geste, et passa sans prononcer une parole.
« Sophia, dis-moi donc ce qu'elle a fait lorsqu'elle a été placée près de l'anglais. L'a-t-elle vue ?»«
Non, elle a été surprise, voilà tout, » répondit la juive Mossad. « Laisse partir cette femme. » « Bulba, elle a fini. Est-ce que cette comédie va durer longtemps ? Tu as affaire à une aristocrate, à une Romanov. N'y a-t-il aucun de tes hommes qui veuille l'épouser ?
Attends un peu, ma petite. Tu oublies le livre magique. Oh, je préfère l'avoir que de trouver un bon mari parmi des camarades pour Irène Yaroslav. Vous pouvez vous en aller, Irène. Serge !
L'officier, qui avait la liste des condamnés à mort et attendait qu'on lui donnât congé, s'avança de nouveau.
« Emmène notre petit frère, Malakoff. Malenkov est l'anglais à la prison de Saint-Basile. Ce sont des ennemis reconnus de la Révolution.
Je me demande qui donnera à manger à mon petit cheval ce soir, » dit Malenkov, tandis que menottes aux mains, Malcolm et lui traversaient la ville, aux premières lueurs de l'aurore, croyant tous deux marcher à une mort certaine.
Chapitre 12. En prison. La prison temporaire de Saint-Basile était composée de 4 bâtiments, dont 3 de granit gris, présentaient, vue de la cour intérieure, une série de petites fenêtres percées avec une monotone régularité. Le 4e bâtiment était également de granit, mais une récente tentative avait été faite pour recouvrir de plâtre sa façade sévère, et comme les ouvriers s'étaient lassés de leur travail avant de le finir, la construction avait l'air à demi écorchée. Une large tranchée, accessible çà et là par quelques marches, faisait le tour de l'édifice. Malcolm et le général y descendirent, conduits par leur gardien. Après avoir marché un certain temps, ils s'arrêtèrent devant une des nombreuses portes bardées de fer. Le soldat l'ouvrit, le poussa à l'intérieur, et la porte se referma derrière eux avec un bruit de verrou. La pièce où ils se trouvaient était de moyenne grandeur, vide de meubles, sauf une table, au centre et un banc, courant le long du mur. Le jour venait par une petite fenêtre donnant sur la cour et par un vasistas grillé placé au-dessus de la porte. Dans le mur, une ouverture oblongue laissait passer la lumière d'une lampe électrique atténuée par un verre dépoli. 2 hommes occupaient déjà cette cellule. L'un d'eux, un pope sale et déguenillé, leva vers les nouveaux arrivants des yeux ternes. L'autre eut un regard plein d'intérêt. Il était couché en bras de chemise, sa veste roulée lui servant d'oreiller, et son chapeau melon était pendu à un clou au-dessus de son lit. C'était un petit homme trapu, coloré, yeux gris, rempli de malicieuse gaieté. Il se leva lentement et vint à Malcolm, la main tendue. « Salut, messieurs, mon compagnon et moi vous souhaitons la bienvenue au Punaise Palace. À quand votre exécution ? Aujourd'hui, c'est son tour, à lui. » Il désignait du pouce le pope en train de gémir. « Je peux pas vous dire que j'en sois fâché, car il n'est pas plus divertissant que s'il était déjà mort. » Dans un éclair, Malcolm se rappela sa rencontre avec l'Américain à Londres et dit en souriant « Mais vous ne me reconnaissez pas ? Oh, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. » Le prisonnier éclata de rire. « J'ai fait lever les mains, à Tcherikine. » Malinkov ouvrit de grands yeux. « Ah, oh, c'est vous, Bim !» Il ne put s'empêcher de sourire et expliqua. « Oui, c'est l'Américain qui a cambrioré Tcherikine et a failli s'enfuir avec 10 millions de roubles. » Chéri Bim avait campé son chapeau sur sa tête. « C'est exact, mais je ne savais pas qu'il s'agissait de roubles. Vous croyez que je me serais monté le cou ?» Pour du papier sans valeur, on m'avait dit que c'était de la monnaie française. Il y avait un autre homme dans l'affaire, il me semble. Oui, il y avait Isaac Moscava. Ils l'ont tué, le pauvre vieux. C'est un bon type, mais trop, comment dites-vous, quand on tombe amoureux de toutes les dames qu'on rencontre. Impressionnable. C'est ça, impressionnable. Nous avions pour 20 000 $ de vrais brillants à Petrograd. Ils avaient appartenu à une princesse et nous les avions raflés chez l'ami de Grubal, le commissaire aux vivres. Mon idée était de les faire passer par la frontière suédoise. Ah ouais. Mais s'il y avait un béga à Moscou. Malcolm regardait le gangster avec surprise. Vous voulez dire que vous êtes un... « Je suis un chevalier d'industrie !» déclara Bim avec emphase. « Un chevalier est un qualificatif qui vous convient. »« Oh, je le sais que ce n'est pas un terme flatteur. C'est la passion du tir qui m'a lancé dans les aventures, et non pas les aventures qui m'ont forcé à jouer du revolver. À l'âge de 7 ans, je savais tenir un fusil. Mon père, oh Dieu le bénisse, habitait Utah et je suis né à Brook Creek, où je me suis fait les dents sur le canon d'un pistolet. Tout petit, je coupais une queue de mouche ou une trompe de moustique au vol. C'est Isaac Moscava qui m'a amené en Russie. Et pendant que nous étions au Canada, fugitifs tous les deux, il avait des relations avec les soviets et me faisait une peinture enchantée des petits profits qu'on pouvait réaliser à Petrograd. Alors un jour, nous nous sommes embarqués sur un bateau suédois. À Stockholm, un ami du défunt Isaac nous a expédiés pour payer à Petrograd. À partir de ce moment-là, les affaires ont bien marché. Il s'est interrompu tout à coup. J'espère que vous avez apporté des vivres. Je vous préviens qu'on crève de faim ici. De l'eau tiède qui sent le chou, voilà notre ordinaire. « Avez-vous été déjà jugé ?» demanda Malinkov. « Peu jugé. Est-ce que vous croyez, par hasard, qu'on va vous conduire devant un tribunal et vous offrir un avocat, pas ton chichi ? Quand ils vous font comparaître, c'est pour vous lire votre arrêt de mort. Mais il y a des variantes. Venez voir. » Il grimpa sur le banc avec une agilité extraordinaire et, dressé sur la pointe des pieds, il appliqua son œil à un petit grillage communiquant avec la cellule voisine, puis, s'écartant un peu, « Regardez !» dit-il. Malcolm obéit. À peine eut-il distingué la forme humaine étendue sur un banc, qu'elle se redressa comme galvanisée. C'était un vieillard tremblant d'effroi, qui poussa un hurlement.
« Je ne dors pas, Spadard, tu vois bien que je ne dors pas !»
Ce cri sauvage finit dans un sanglot, puis avec un long soupir, le malheureux se recoucha le dos au mur. Malcolm et Malinkoff, péniblement impressionnés, se regardèrent.
« Mais qui est-ce » demandèrent-ils à Chelybeam.
« Descendez de là, je vais vous le dire.
Il ne faut pas parler trop fort. Le pauvre vieux a déjà si peur.
Vous avez entendu, hein ? J'ai d'abord cru qu'on m'avait raconté une blague, mais pas du tout. C'est un juif qui est là. Le pauvre bonhomme avait une fille ou une petite fille qu'un des camarades trouvait à son goût. Moïse a voulu la défendre et il a d'un coup de revolver cassé la figure du type. Alors ils l'ont emprisonné et veulent le tuer pendant son sommeil.
« Pendant son sommeil ?» répéta Malcolm, incrédule.
« Mais oui, tant qu'il sera éveillé, on l'épargnera, ils le disent du moins, de sorte que le vieux n'ose plus fermer l'œil. Moi, j'imagine que lorsque son tour viendra, on lui fera son affaire, endormi ou non.
« Mais c'est infernal !» dit Malcolm entre ses dents. Le pape, debout dans la fenêtre, s'était mis à prier à haute voix en se signant à plusieurs reprises.
« Il récite l'office !» dit tout bas Malinkoff, qui se découvrit.
Mr. Hay, plein de compassion, s'approchait du pape et lui offrait une cigarette.
« Petit père, n'y a-t-il rien que l'on puisse faire pour vous ?»«
Rien, mon fils !» répondit le vieillard d'une voix affaiblie. « À moins que vous ne trouviez moyen d'amener Bulba dans cette cellule pour une heure. »
Et la couleur revenant à ses joues pâles, il continua plus fort.
« Je punirai ce Bulba comme Saint-Ivan a puni les traîtres devant le Kremlin. Je voudrais d'abord verser sur lui de l'eau bouillante, puis de l'eau glacée, le suspendre par les pieds, l'écorcher, et avant qu'il ne soit mort, le couper en quatre morceaux.
Bois, fit Malcolm en s'éloignant. Vous êtes déçu, dit le général, mais mon cher, les Russes d'aujourd'hui sont toujours les mêmes, sauf que les riches sont pauvres et que ceux qui étaient juges, j'ai son juge maintenant. Son compagnon ne répondit point. Il s'étendit sur le banc, aussi confortablement qu'il put, et se mit à rêver. Chose curieuse, en quelques heures, il s'était habitué à sa captivité et envisageait qu'elle durât aussi longtemps que... Non, non, il ne voulait pas penser à la jeune fille, à la balayeuse de Bulba. Son propre sort lui était indifférent. Mais le ciel lui accorderait peut-être de revoir une dernière fois la grande-duchesse. À cette agonie de l'esprit se joignait pour Malcolm une souffrance plus prosaïque, la faim, une faim dévorante, et cette sensation était partagée par les autres prisonniers.
« Jamais ils n'ont été si en retard !» grommela Bim.
Il alla vers la fenêtre et, s'y accoudant, regarda au dehors d'un air désolé.
« Hi, Ruski !»
hurla-t-il en s'adressant à un invisible personnage et se livrant à une pantomime extravagante qui n'eut aucun résultat nutritif. Il était 3 heures de l'après-midi et Malcolm sommeillait lorsque les verrous glissèrent, la clé tourna dans la serrure et la porte s'ouvrit doucement. Malcolm sauta sur ses pieds.
« Irène, votre Altesse !»
balbutia-t-il. La jeune fille s'avança silencieusement et posa sur la table le grand panier qu'elle portait. Un peu de couleur vint à ses joues lorsqu'elle se tourna vers le jeune homme et lui tendit les mains.
« Pauvre enfant, dit-il. Master Hay, vous avez fait des progrès en russe depuis que je ne vous ai vu, n'est-ce pas, général Malinkoff ?»
Le général, figé dans une attitude respectueuse, fit le salut militaire au grand amusement du geôlier resté sur le seuil. Je vous apporte votre repas, reprit la grande duchesse. Il en sera ainsi chaque jour désormais. C'est une idée de Bulba. Ma sœur, j'imagine qu'il croit que j'ai de l'affection pour vous. Et c'est vrai, continua-t-elle avec franchise. Tous ceux qui bravent le danger pour sauver une femme méritent ma sympathie. Elle sourit de nouveau. Mais que puis-je faire pour vous? Demanda Malcolm à voix basse. Êtes-vous libre? N'avez-vous pas d'amis? Irène secoua la tête et répondit sur le même ton. J'ai un ami, mais il est encore plus en danger que moi. Oh non, je ne parle pas de vous, Master High. Il y a une chance pour que vous sortiez de cette affreuse prison. Oh, c'est une chance bien faible, il est vrai, mais si cela arrive, promettez-moi de quitter la Russie.
Non, Altesse, vous m'avez déjà demandé cela jadis, mais j'ai encore plus d'objections à vous obéir maintenant qu'autrefois, car le danger est plus certain.
Elle lui tendit les mains, il les baisa et resta hors de lui, longtemps après que la porte se fut refermée derrière la jeune fille. Chapitre 13. Chéribim fait un rapport. Au milieu de la nuit, Malcolm fut tiré de son sommeil par un cri d'agonie. Il sauta de son banc, le visage baigné de sueur. Mais qu'y a-t-il? Malinkov, assis, se frottait les yeux. Chéribim n'avait pas bougé. Étendu, les mains sous la nuque, il était complètement réveillé. Mais qu'est-ce que c'était, Chéri? Répéta Malcolm. Lentement, le petit homme se leva et s'étira. Eh oui, je croyais qu'il n'accomplirait pas le programme jusqu'au bout, mais je me suis trompé. C'est le vieux juif. On entendit claquer une porte. Oh, c'est la porte de la cellule. Ils emportent le corps, probablement. Le précédent a été pendu, l'un crochet dans un sac. Il a mis longtemps à mourir, ajouta pensivement Chéribim, dont la lèvre inférieure tremblait en dépit de son ton calme. À partir de ce moment, aucun des prisonniers ne put se rendormir, et ce fut un soulagement pour eux de voir se lever le jour. Mais leur répit ne fut pas de longue durée. Tout à coup, la porte s'ouvrit violemment et un groupe de soldats parut sur le seuil. « Boris Mikhailovitch !» appela l'un d'eux. Le pope se leva lentement. Son teint était terreux, ses mains tremblaient. Néanmoins, il marcha d'un pas ferme vers la sortie. Avant de suivre les hommes, il se retourna et levant la main, bénit ses compagnons de captivité. Malinkov tomba à genoux. La porte se referma et la prison redevint silencieuse. Mais 10 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'une salve de mousqueterie les fit sursauter. Chéribim s'essuya le front. « Enfin, dit-il d'une voix mal assurée. Il vaut mieux cela que la pendaison. » Irène revint à la même heure que la veille. Elle chercha du regard le pope et, comprenant sans doute la raison de son absence, n'y fit aucune allusion. « Si vous parvenez à fuir, dit-elle au prisonnier, allez à Presponjeski. C'est un village à quelques verstes d'ici. Je vous donne ce conseil, quoique... » Elle n'acheva point, mais son air désolé en disait long. « Excusez-moi, miss, » interrompit Chéribim, « n'y aurait-il pas moyen de se procurer un revolver ? N'importe lequel, mais je préférerais un Colt. » Irène secoua tristement la tête. « C'est impossible, je suis fouillé avant d'entrer ici. »« Et dans un pâté, » insista Bim. « J'ai lu que ça se faisait beaucoup. »« C'est également impossible. Même le pain est coupé en quatre dans la loge du concierge. » Chéribim jeta un regard d'envie sur l'arme que portait le soldat en faction devant la porte. « Je parie, dit-il avec amertume, que cet imbécile ne sait pas mieux se servir de son revolver qu'un enfant au maillot. » « Il faut que je m'en aille, » dit la jeune fille avec un peu de précipitation. Malcolm prit la parole. « Dites-moi auparavant quel est l'ami dont vous parliez hier. Est-ce Israël Kensky ?»« Chut !» fit-elle. Et lui tendant la main, « Au revoir, ma sereille. Il se peut que je ne revienne pas demain. » D'une voix un peu dure et plus bas, elle ajouta, « Boulba m'a déclaré ce matin qu'il avait des intentions à mon égard. Adieu !» Cette fois, elle tendit la main à Malinkov. « N'oubliez pas le nom du village, Priopoyensky. Si Dieu, dans sa miséricorde, permet que vous arriviez jusque-là, vous arrêterez chez Ivan Pietrov. « Retenez ceci, n'est-ce pas ?» Et la grande duchesse disparut. « C'est étrange. Son Altesse a changé subitement d'attitude, comme si quelque chose l'avait effrayé. » Malinkov alluma sa dernière cigarette. « Mon cher, dit-il, j'ai l'impression que vous et moi nous aurons le même sort que l'infortuné Pope. Du reste, tenez !» Voilà peut-être du nouveau. Un officier de la garde rouge venait d'entrer dans la prison. On l'avait probablement choisi parce qu'il savait l'anglais. Il s'adressa au prisonnier dans cette langue. « Je viens chercher le voleur. »« Il me semble qu'on parle de moi, » dit Chéribim en mettant son chapeau sans se presser. Il s'en alla en bras de chemise et les deux amis le virent traverser la cour et s'engager sous le passage voûté conduisant au bureau de la prison et à la porte extérieure. « Oh, je suppose qu'ils ne vont pas le relâcher, » dit Malcolm. « Non, non, on va seulement l'interroger. Il y a évidemment quelque chose que Boulba veut avoir pour nous, et il essaiera de faire parler cet homme. Bon, il ne dira rien qui puisse nous nuire, » déclara Malcolm après quelques instants de réflexion. « Oh, pourtant, il m'a l'air d'un filou de premier ordre. Oui, mais c'est un homme de ma race. Peut-être ne lui confierai-je pas mon portefeuille. Cependant, je crois que ma vie est en sûreté entre ses mains. » 20 minutes plus tard, Chéribim était de retour, très solennel et mystérieux. Dès que le geôlier fut parti, il demanda « Où est Israël Kensky ?»« Pourquoi ?» repartit Malcolm vivement. « Parce que je suis en train de faire une déposition à son sujet, une déposition écrite, s'il vous plaît. On va me donner une chambre pour moi tout seul, parce que je n'ai pas la plume facile. Il me faudra raconter tout ce que la demoiselle a dit de lui. » « Oh, ce sera fait en une seconde, alors. »« Oh, ne vous emballez pas, du calme. On m'a renvoyé ici pour vous poser 2 ou 3 questions. » Il ôta son melon, en examina attentivement l'intérieur et le remit sur sa tête en l'enfonçant d'un coup de poing. « Voilà. 10 minutes s'écoulent dans une conversation supposée à propos d'un livre. Le livre... « Magique !» acheva Malcolm. C'est ça, je dirais qu'il contient l'histoire de cette prison de malheur. » Là-dessus, il prit son veston, le secoua, l'enfila, et plein d'entrain marcha à la rencontre de l'officier qui venait le chercher. Ses compagnons passèrent 2 mortelles heures avant qu'il reparût. Le gangster avait l'air plus solennel que jamais. Sans répondre à leurs questions, il se mit à arpenter la cellule en chantant avec plus de raison que de rime. Regardez, à travers le grillage, si quelqu'un nous écoute
où nous regarde, tralala, lalala. Personne, dit McCollum après une brève inspection.
Alors, Cherry, s'arrêtant et parlant très vite, murmura.
Il va revenir dans 5 minutes. Je lui ai dit que j'avais besoin d'éclaircir 1 ou 2 points obscurs. C'est pour ça qu'il m'a ramené. Si j'avais voulu, mais je n'ai pas voulu.
Quoi donc ?
Me sauver. Vous seriez resté sale. Savez-vous ce que j'ai trouvé dans la pièce où j'ai été écrire ? Un homme en train d'enfermer dans une armoire 3 revolvers et 10 paquets de cartouches. Et quelle armoire ! Oh ! Vous auriez pu ouvrir la serrure avec vos dents. Ça a l'air d'un conte de fées, mais c'est authentique.
Et on vous a laissé seul ?
Bien entendu. Soulevez mon chapeau avec délicatesse, s'il vous plaît.
Me serait obéi, et l'on vit poindre un canon de revolver.
Il y a un Browning là-dessus. Soyez prudent, dit Cherry Bim, en plongeant la tête en avant et retirant son melon d'un seul coup. Le Colt est sous mon bras, dans ma manche. Le voilà. Il y a aussi les cartouches pour l'automatique. Je m'adjuge le Colt. Maintenant, écoutez-moi, camarade. Derrière ce portail, au bout de la cour, il y a une autre cour et un autre portail gardé par une sentinelle. Nous passons ou nous ne passons pas, ça dépend de votre veine. Attention, voilà notre homme qui revient.
L'officier ouvrit la porte et fit signe à Bim de le suivre. Comme il se retournait, Bim le saisit par le pan de sa tunique et le tira violemment en arrière.
« Ameu, tu es mort !»
L'officier, sentant le canon d'un revolver appliqué au creux de son estomac, leva les mains.
« Attachez-le, il porte des bretelles !» commanda Bim. Pendant ce temps, je le débarrasse de son arsenal.
Il prit le ceinturon, en tira un revolver. Il boucla le ceinturon autour de sa taille et poussa un soupir de satisfaction. L'officier fut bâillonné avec un mouchoir et jeté sans douceur sur le banc. Puis les fugitifs franchirent le seuil de leur prison, dont Bim verrouilla soigneusement la porte, rabattant le volet extérieur pour rendre le séjour plus obscur et plus insupportable encore. Les 3 hommes se glissèrent dans la tranchée. Un soldat montait la garde près du portail, de l'autre côté de la cour.
« Restez ici !» chuchota Bim. « Comme il m'a vu aller venir tout à l'heure, il est quoi peut-être un fonctionnaire de l'établissement ?»
Il sortit de la tranchée et marcha hardiment vers la sentinelle. Lorsqu'il en fut plus qu'à 2 pas, il se retourna comme pour saluer un compagnon imaginaire, en réalité pour s'assurer que personne ne le voyait. Ce qui suivit fut incompréhensible pour ses compagnons. Soudain, le soldat se plia en 2 comme un canif et tomba. Cherry ramassa sa carabine, l'appuya contre le mur, et déployant une force inattendue chez un si petit homme, il empoigna sa victime et la jeta dans la tranchée. Malenkov et McCollum entendirent le bruit de la chute, et cessant de se cacher, ils rejoignirent bien Bim en courant. Tous 3 s'engagèrent sous le passage voûté et de l'autre côté duquel ils se trouvèrent en présence de la clôture extérieure. Elle consistait en une formidable grille flanquée de 2 guérites, devant lesquelles 12 de soldats étaient assis ou à demi couchés, mais tous armés de carabines. À gauche, un mur très haut ôtait toute possibilité d'escalade. À droite se dressait une sombre bâtisse que Malcolm devinait être les bureaux de la prison.
« Entrons là !» dit Bim dans un souffle.
Et apercevant une porte ouverte, ils se faufilèrent dans la première pièce venue. Elle était vide, mais à peine eurent-ils refermé la porte qu'un bruit de pas se fit entendre. Pim, la figure contractée, s'immobilisa, un revolver dans chaque main. Personne n'entra, pourtant une certaine agitation se manifestait à l'extérieur. Le portail grinçait, des voix s'élevèrent. Malcolm rampa jusqu'à l'unique fenêtre de la chambre, qui devinait être celle où Bim avait écrit, et regarda au-dehors avec précaution. Une superbe limousine entrait dans la petite cour. Précipitamment, il se baissa de nouveau. « Ce doit être un visiteur de marque, » dit Bim qui l'avait rejoint. « On va le recevoir ici. Le type que nous avons laissé dans la cellule m'avait bien dit qu'on avait besoin de cette pièce. Essayons cette porte-là. » Il indiquait un grand placard et Malenkov s'élança pour l'ouvrir. À mi-hauteur, une étagère encombrée de paperasses en rendait l'accès difficile. Malenkov la souleva d'un coup d'épaule. La planche et les papiers dégringolèrent avec un fracas, heureusement étouffé par le ronflement de l'auto. « On peut s'y mettre trois en se tassant, » déclara Bim. « Entrez le premier, Master Hay. » Ce n'était pas un tassement, c'était une torture. Mais la porte se referma sur eux. Il était temps. Quelqu'un entrait dans la pièce. Malcolm, qui avait une stupide envie de rire, redevint grave en reconnaissant la voix de Bulba. « Je ne resterai pas longtemps, camarade, disait-il, mais... » Le reste fut un murmure. « On veillera à ce qu'elle soit bien gardée, » répondit une voix, sans doute celle du directeur de la prison. Malcolm se mordit les lèvres pour ne pas crier « Irène !»« Oui, camarade, je vais vous l'amener. Laissez-moi vous conduire à une chaise. » Ils entendirent l'homme inconnu retourner à la porte et appeler quelqu'un. Immédiatement après, une troisième personne fit irruption dans la pièce. « Qu'est-ce que cela signifie, Bulba ?» En entendant cette voix, Malcolm éprouva un tel soulagement qu'il n'eut plus conscient de son propre danger. « Sophia Kensky, » dit Bulba, « par ordre de survêt, je vous arrête. »«
Moi, arrêtez ?» hurla-t-elle.
« On a découvert que vous complotiez contre la Révolution. »«
Mais tu mens !» glapit la juive, « démon aveugle. Je te crache à la figure. »« Tu m'arrêtes parce que tu veux me remplacer par l'aristocrate, par cette Irène Yaroslav. »«
C'est l'ordre, chère petite âme. N'aie pas peur, je m'en vais seul. »« Écoute mon auto qui tourne. » « Que vais-je devenir sans yeux maintenant que ma petite maman sera partie ?»
Il repoussa bruyamment sa chaise, mais jetant un cri perçant, Sophia se jeta sans doute sur l'aveugle, car il eut un remue-ménage.
« Emmène-la, camarade !» rugit Bulba. « C'est son père qui m'a rendu aveugle, emmène-la donc !»
À ce moment, Cheribim bondit hors du placard, revolver au poing, et le fonctionnaire interdit recula.
À l'auto, maintenant, Hay, chargez-vous de la sentinelle.
Malenkov, déjà, s'élançait de la porte à la voiture. Des soldats se précipitèrent sur Bim. Il ne savait pas le russe, mais ses revolvers étaient polyglottes. Il fit feu trois fois et sauta dans l'auto qui démarra. Malcolm était debout sur le marchepied, Malenkov de l'autre côté auprès du chauffeur. C'est ainsi cahoté qu'ils traversèrent les rues mal pavées de Moscou et atteignirent sans encombre la barrière suburbaine.